la partie ecclésiologique de la confession de la Rochelle et commentant cet article 29, je voudrais encore dire quelques mots, puisque nous sommes en train d'aborder le ministère du pasteur, de l'homilétique. La prédication consiste, dans l'idéal réformé du XVIe siècle, en une exhortation. Elle doit donner l'intelligence bonne et sainte du texte. Nous nous efforçons, bien entendu, de rendre le contenu de sens du langage calvinien. Elle doit donner l'intelligence bonne et sainte du texte. Elle doit être véhémente pour que les cœurs soient touchés au vif. Enfin, cette exhortation doit satisfaire aux besoins des auditeurs. Quatre adverbes, me semble-t-il, caractérisent le travail du prédicateur dans la pensée de Jean Calvin. Le prédicateur doit exposer le donné scripturaire, entendez évidemment le donné biblique, droitement, simplement, évidemment, autour de cet adverbe simplement, et il faudrait raccorder tout ce que nous avons dit au dernier cours à propos du principe d'accommodation. Selon le principe d'accommodation, le prédicateur doit bégayer avec ses auditeurs. Troisième adverbe, brièvement, ressusciter là un peu, hein, il n'y a pas d'ambiance, vous sentez, il n'y a pas d'ambiance du tout dans cette salle. Faites-nous une danse du ventre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il n'y a pas d'ambiance. Ressuscitez la sortie du milieu. Accrochez-vous au plateau du resto. Parce que c'est un cours fondamental ici. Vous êtes là demi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Il y en a un qui va venir là pour que je le fracasse du vrai. Non, réveillez-vous. Qu'est-ce qu'il faut faire autour du bâtiment? Il faut. Je vous enregistrez les bruits, tout. Faire le tour de la femme. Nous, on fait un effort quand même. N'enregistrez plus tout ça. Alors, quatre adverbes caractérisent le travail du prédicateur. Il doit exposer le donné scripturaire droitement, simplement, brièvement. Troisième adverbe, brièvement. Quatrième adverbe, courageusement. La prédication n'est pas une inoffensive causerie. La parole de Dieu ne doit pas être exposée à demi-bouche. Ce que Calvin demande, c'est que le pasteur soit véritablement prédicateur de l'Évangile et non point un chien muet. Cette expression ne doit pas être comprise comme une injure. En effet, le pasteur est pour Jean Calvin le chien du Seigneur qui use d'une duplex box. Souligner l'évolution. Une duplex box, une double voix. Premièrement, la première voix est la voix douce et aimable pour ramener la brebis égarée. Le ministre doit conduire les gens dociles. Il doit nourrir le troupeau pour l'amener au salut. Et par la prédication, le ministre procède à un examen, à une anatomie de nos fonctions, de nos arts. La deuxième voix est la voix sévère et tonitruante pour faire fuir le loup qui menace le troupeau. Le ministre réfute les ennemis, s'adresse aux adversaires de la sainte doctrine. Calvin demande au pasteur d'être des chiens qui aboient. Et précisément pas le fameux chien muet. La prédication est destinée, je cite, à gratter nos rognes. Sans la prédication, nous serions chevaux échappés, bêtes égarées. Il y a là en même temps dénoncer le danger de l'individualisme. Des spiritualistes, vous savez, cette aile gauche de la Réforme, cette aile illuministe de la Réforme, qui voudraient à la fois se passer de l'écriture, mais encore de la prédication, pour ne faire place qu'à la voix intérieure. J'écoute la petite voix intérieure. Finalement, le Saint-Esprit me suffit. Enfin, ce que j'appelle le Saint-Esprit. Et Calvin dirait, qu'est-ce que c'est ce Saint-Esprit qui nous rôde, non, il faut qu'il y ait une objectivité, c'est l'écriture, et il faut qu'il y ait cet accompagnement de la prédication. Un mot encore concernant la nomination des pasteurs. Oui.
J'ai une question, je voulais revenir sur les quatre adverbes.
Oui.
Juste brièvement. Pas la différence, c'est la durée de la prédication.
Plutôt aller au cœur de l'exposition, enfin pas tenir, pas tourner autour du pot. Mais peut-être pas rallonger la sauce, quoi. Et remarquez, vous avez raison de poser la question, parce que au XVIe siècle, on prêchait trois quarts d'heure, une heure. La nomination des pasteurs. Calvin indique un ensemble de conditions très précises à remplir pour devenir pasteur. Il écrit « Afin que rien ne se fasse confusément en l'Église, nul ne se doit ingérer en cet office sans vocation, en laquelle il faut considérer trois choses, à savoir l'examen qui est le principal, après aussi, il appartient d'instituer les ministres. Tiercement, quelle cérémonie ou façon de faire il est bon de garder à les introduire en office. » Donc il s'agit au départ d'avoir reçu une vocation. Nul ne se doit ingérer en cet office sans vocation. Il s'agit au départ d'avoir reçu un appel de Dieu. Et au colloque de Poissy de 1561, dans la troisième séance, Théodore de Bèze affirmera « Les vrais pasteurs sont ceux qui sont légitimement appelés. » L'accès au ministère au XVIe siècle était peut-être plus facile qu'aujourd'hui. Il y avait une souplesse plus grande. Il n'y avait pas de carrière type conduisant au ministère. Trois règles sont nécessaires pour reconnaître une vocation légitime. Premièrement, l'examen. Il a lieu devant la compagnie des pasteurs. Il est d'ordre à la fois doctrinal et moral. L'examen doctrinal, le candidat doit posséder une bonne et sainte connaissance de l'Écriture. Le pasteur doit être capable d'accéder à l'hébreu et au grec et savoir communiquer cette double science. Une exigence de fidélité est attendue du candidat. Il devra adhérer à la doctrine approuvée par l'Église et qui est conforme au contenu du catéchisme. Et cette fidélité, c'est elle qui assurera la cohésion de l'Église réformée de l'âge classique. Il y a une fidélité du contenu de sens de la foi réformée. L'examen moral. On devra discerner trois conditions. Premièrement, l'appel de Dieu. Deuxièmement, que le candidat soit de bonne mœurs. Qu'il sache se gouverner sans reproche, Le pasteur doit être un évêque irréprochable. Il doit avoir une conduite digne de sa fonction. Alors, il y a donc, pour reconnaître une vocation légitime, il y a trois règles. D'abord, cet examen, qui est tout à la fois moral et doctrinal. Ensuite, deuxièmement, une élection légitime. Une élection légitime. Le pasteur est élu par les ministres. Il est présenté ensuite au conseil de la ville. C'est-à-dire au pouvoir temporel. Et en dernier lieu, c'est en dernier lieu seulement, il est soumis à l'appréciation des fidèles. Le pasteur est alors installé. Vous voyez, c'est seulement lorsqu'on est dans le ministère qu'on est ordonné. Contrairement à l'Église catholique romaine, qui fait le contraire, elle ordonne et puis elle conduit le ministère. Là, on est d'abord installé dans le ministère et ensuite ordonné. Après l'élection légitime, la troisième règle pour reconnaître une vocation, c'est une imposition des mains. Tiercement, quelle cérémonie ou façon de faire il est bon de garder en les introduisant à l'office. C'est la cérémonie d'installation du pasteur qui comporte l'imposition des mains. Et alors, la participation des laïcs, telle qu'on la voit aujourd'hui dans des cérémonies d'installation ou de consécration de pasteur ou de reconnaissance d'un ministère, la participation des laïcs dans la cérémonie de l'imposition des mains est une hérésie par rapport à l'ecclésiologie du XVIe siècle. Au XVIe siècle, on considère que si vous n'êtes pas pasteur vous-même, comment pouvez-vous donner le ministère à quelqu'un d'autre? Donc ce sont les pasteurs qui consacrent les autres pasteurs. Alors voilà ce qui concerne, j'arrête ici, ce qui concerne le premier ministère, c'est-à-dire le ministère du pasteur. Je passe au deuxième ministère, celui précisément qui est oublié dans la profession de La Rochelle. C'est le ministère de docteur. L'office de docteur est d'enseigner les fidèles en saine doctrine, afin que la pureté de l'Évangile ne soit corrompue ou par ignorance ou par mauvaise opinion. Toutefois, selon que les choses sont aujourd'hui disposées, nous comprenons en ce titre les aides et instructions pour conserver la doctrine de Dieu et faire que l'Église ne soit désolée par faute de pasteurs. Ainsi, pour user d'un mot plus intelligible, nous appellerons l'ordre des écoles. Tels sont les termes par lesquels les ordonnances ecclésiastiques de 1541 définissent le ministère du docteur. Ainsi, je reprends, les docteurs ont pour charge, premièrement, d'enseigner les fidèles en saine doctrine. C'est l'aspect enseignement. Deuxième charge, mettre en garde contre l'hérésie. afin que la pureté de l'Évangile ne soit corrompue ou par ignorance ou par mauvaise opinion. Mettre en garde contre l'hérésie, c'est un office de vigilance. Troisièmement, fournir à l'Église des pasteurs, le docteur, n'est-ce pas ? Les docteurs fournissent à l'Église les pasteurs dont on ne peut se passer. Les docteurs fournissent à l'Église les pasteurs, après les avoir formés, dans la vérité de Dieu. Les docteurs s'occupent non seulement de la théologie, mais aussi des sciences humaines. Le docteur a sous ses ordres des lecteurs. Lecteur, c'est un terme du Moyen-Âge. Ce n'est pas quelqu'un qui lit à l'office. Hein. Le lecteur, ça veut dire le commentateur. C'est quelqu'un qui lit et commente. Le docteur a sous ses ordres des lecteurs et des bacheliers qu'il rétribue avec son salaire. Et Calvin à Genève, lui qui est appelé illégalus, ce gaulois, ce français, ça veut dire que Calvin n'est pas parfaitement intégré. Il faudra attendre assez longtemps pour qu'il soit d'ailleurs bourgeois de la ville de Genève. Calvin, ce français, n'est qu'un lecteur, techniquement. Il n'a pas le grade ni de pasteur ni de docteur. J'attire votre attention là-dessus, lorsqu'on dit que Calvin est le tyran de la ville de Genève, etc., dans l'Emmanuel, il y a de fortes exagérations là-dedans. Calvin n'est pas la plus innocente à Genève, il a été obligé de s'enfuir de Genève avec Farel, il a des démêlés sans cesse avec le magistrat, notamment à propos de la Sainte-Seine, et il n'est pas donc l'autorité ultime. Même s'il a une autorité réelle, il n'est quand même pas l'autorité ultime. Donc cette fonction de lecteur un peu prophétique, mais sur son bulletin de salaire, il a marqué. Le docteur doit se soumettre à la discipline ecclésiastique. Les docteurs ne sont pas seulement les professeurs de théologie, mais aussi tous ceux qui faciliteront la compréhension de l'Évangile. Cela veut dire, c'était d'ailleurs dans le texte des ordonnances ecclésiastiques, que les régents de l'école sont considérés comme des docteurs. Les régents de l'enseignement primaire et secondaire sont considérés comme des docteurs. Ça veut dire que les maîtres d'école sont investis d'un ministère. Vous savez que la réforme va avoir un net accent autour de la pédagogie. Pour ceux qui en douteraient, je vous renvoie au mémoire récemment soutenu dans cette maison sur le pédagogue réformé Mathurin Cordier. Les maîtres d'école sont investis d'un ministère, ils se servent d'abécédaires pour enseigner les enfants, c'est-à-dire de catéchisme et de manuel de doctrine. Je cite pour endoctriner l'Église. Voyez, mot qui ne passerait pas la rente aujourd'hui. Et en même temps que l'enfant apprend à lire sur ses abécédaires, en même temps il se familiarise avec la doctrine évangélique. C'est ce qui se passera plus tard d'ailleurs avec les protestants persécutés du XVIIe siècle qui apprendront à lire sur la Bible elle-même et qui du coup en auront une grande connaissance, ils seront plus cultivés que la moyenne des catholiques. Les abécédaires sont au XVIe siècle des moyens de diffusion et de propagation de l'évangile des plus étonnants. Calvin s'efforce, sans y parvenir vraiment, de distinguer l'office du docteur de celui du pasteur. Bien sûr, je viens de le faire théoriquement avec lui, mais pratiquement, il va souvent y avoir en pratique le ministère de docteur se confond souvent avec celui du ministère du pasteur. Et au fond, de fait, on aura plutôt des pasteurs-docteurs plutôt que des pasteurs et des docteurs. Et c'est si vrai que des quatre ministères de Calvin, aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un, finalement. Enfin, s'il y a le conseil presbytéral, le conseiller presbytéral, un peu hybride, vous voyez, des quatre ministères, il me semble qu'il va y avoir, après dans l'histoire, un cumul du ministère du pasteur et du docteur, et pour faire le pasteur, et puis ensuite un cumul de l'ancien et du diacre pour faire le hybride conseiller presbytéral. Alors voilà. Ainsi, dans l'édition de 1543 de l'institution de la religion chrétienne, je vous rappelle, je vous signale que l'Institution de la religion chrétienne est un livre que Calvin a écrit jeune homme et qu'il n'a cessé de réviser tout au long de sa vie. Et ainsi nous avons différentes sortes d'éditions de la religion chrétienne qui sont publiées d'ailleurs en français et en latin quelquefois. D'abord en latin puis traduit en français. Et lorsque j'ai passé mon grand examen d'histoire à la faculté d'autonomie de Paris pour avoir la licence, j'ai comparé devant le jury de trois historiens, et Stoffer m'a demandé, première question, Thomas, quelles sont les différentes éditions avec leur date, leur contenu de sens de l'institution de la religion chrétienne de Calvin? Et alors ce sont des grands examens, c'est-à-dire que ce n'est pas les examens, si vous voulez, d'un élément, c'est-à-dire qu'on vous demande des choses que vous n'avez pas apprises, c'est ça l'idée. Il ne m'avait jamais enseigné les différentes éditions de la religion chrétienne. Alors, bon, j'ai dû me débrouiller avec ça. Sophère était un type étonnant, hein, je vous disais. J'en ai trop parlé de lui, finalement. Donc vous le lisez dans le petit manuel, hein. Vous savez ce. Un jour, j'ai été invité, je vous ai raconté cette histoire, j'ai été invité par Stoffer. J'essaie de réveiller les petits malgaches, là. Un jour, je suis invité par Stoffer à dîner. Alors que j'étais étudiant, et j'arrive avec mon bouquet de fleurs pour Madame Stoffer, dans quelques pavillons petits bourgeois de la banlieue de Paris. Et là, je sonne. Sur une sonnette, là. Et puis j'entends un petit trou de souris dans le gravier, c'était Stoffer, et à ce moment-là, un chien aboie. Et alors, pour lui dire quelque chose et pour lui montrer que j'avais suivi ses cours, je lui dis vous l'appelez Calvin, sans doute. Alors,
Casalis, ici Casalis,
couché. Ah, c'est fabuleux, parce que l'ennemi de Richard Stoffer, c'était, ils sont les deux, c'était le professeur, je dirais, de gauche théologique Georges Martin, le dégénéré, Georges Canalis. J'ai eu d'ailleurs comme aussi. Disons, les deux ne s'entendaient pas du tout. C'était la guerre. La guerre. Et alors, donc c'était extraordinaire cette histoire. Oui, oui, c'est pas je me référais à cette. Vous avez déjà parlé à ce fait que un jeune voix avait appelé par tradition son chien Calva. Et alors l'Assemblée des Pasteurs avait convoqué ce jeune voix, etc., et l'avait conduit à amendement pour avoir appelé son chien Calva. Bon, alors. Nous continuons. Je suis obligé de sortir les vieux trucs pour assurer que vous êtes encore là, sain de corps et d'esprit, un peu vivant. Et dans l'édition de 1543 de l'Institution de la religion chrétienne, Calvin ne parle que de trois ministères, oubliant le ministère doctoral, auquel pourtant il attache de l'importance. Et la confession de La Rochelle, vous l'avez constaté avec moi, dans ce présent article 29, passe tout simplement sous silence le ministère du docteur. Nous croyons que l'Église véritable doit être gouvernée selon l'ordre établi par notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir qu'il y ait des pasteurs, des surveillants et des diacres. Et il passe, comme chat sur braise, comme Doma sur glace, sur le ministère, sur l'office du docteur. On ne le trompe pas. Et pourquoi? Peut-être que Calvin estime que ce ministère doctoral qui ne peut s'intégrer que dans les facultés de théologie et que dans les écoles, ce ministère, peut-être Calvin considère-t-il qu'il ne peut s'épanouir pleinement en France. Le pouvoir temporel n'ayant pas accepté la réforme. C'est une hypothèse d'école que je lance. Et dans la prédication de Calvin, à laquelle, vous le savez, j'aime beaucoup me référer aussi, dans la prédication de Calvin, la fonction du pasteur éclipse presque complètement celle du docteur, et même de l'ancien et du diable. À notre connaissance, ce n'est que dans le 25e sermon sur l'épître aux Éphésiens que Calvin parle des docteurs et leur attribue la charge, je cite, d'exposer l'écriture afin qu'il y ait toujours bonne et sainte intelligence qui ait sa vigueur et qui continue en l'Église et que les hérésies et fausses opinions ne pullulent point mais que la foi demeure ferme sur tout. Voici, c'était le ministère du docteur. Je passe maintenant au ministère d'ancien. Ministère d'ancien. Et Calvin d'avertir. Ils ne sont pas nécessairement, je cite, vieilles gens d'âge. Alors c'est l'ancien qui est appelé aussi surveillant, encore gouverneur. L'ancien, quel est son office ? Il est chargé de veiller sur le respect de la discipline. Et dans les ordonnances ecclésiastiques de 1541, le ministère des anciens est défini de la manière suivante, sans doute, je pense, influencé par le fameux Eucolampade, que j'appelle Eau-Eulier. Voici qui est Eucolampade ? Question d'examen, pas. Eucolampade. Le petit que sais-je, Bru.
Un réformateur.
Bon, c'est bien déjà. De Bâle. Hein? Eucolampade, réformateur de Bâle. Dans les ordonnances ecclésiastiques de 1541, vous voyez que chaque fois, pour chaque office, j'ai interrogé les ordonnances ecclésiastiques. Il est dit ceci, leur office est de prendre garde sur la vie d'un chacun, d'admonester aimablement ceux qui lui auront failli ou mené une vie désordonnée, et là où il en serait métier, faire rapport à la compagnie qui sera députée pour faire les corrections fraternelles et les faire avec les autres. Vous voyez, les anciens ont donc un office disciplinaire. C'est un office de vigilance, de surveillance, dans le domaine des mœurs, un office d'exhortation. La ville de Genève a été quadrillée, vraiment répartie, en 12 secteurs. Et il y avait un ancien par quartier. Un ancien par quartier. Je cite, afin d'avoir l'œil partout. Un ancien était chargé dans chaque secteur de veiller au respect des bonnes mœurs et de faire un rapport au consistoire. Rapport au consistoire en cas de scandale. Question, qu'est-ce que le consistoire ? Le consistoire était un organisme composé des anciens et des membres du corps pastoral régulier. À Genève, du temps de Calvin, il y avait 12 anciens. Ce qui est normal, hein, puisqu'on vient de dire qu'il y a 12 secteurs. Ces 12 anciens se composent comme suit, Aleph, deux anciens qui étaient choisis parmi les membres du Petit Conseil. Évidemment, le petit conseil, c'est l'organisation politique de la ville. Bête, quatre anciens qui étaient choisis parmi les membres du conseil des 200. Quatre qui étaient choisis parmi les membres du conseil des 60. C'est une autre assemblée politique à Genève. Donc, Aleph, deux étaient choisis parmi les membres du conseil. Beth, quatre qui sont choisis parmi les membres du conseil des 60. Guimel, six qui était choisi parmi les membres du conseil des 200. Si c'est 4 10 et 2 12. Ces dispositions révèlent les difficultés rencontrées par Calvin à Genève, où le lien était si étroit entre Église et État. Eh oui, vous vous rendez compte que chacun de ces anciens, si vous avez bien suivi, est donc une personnalité politique. Puisque cette personnalité se trouve soit du petit conseil, soit du conseil des 60, soit du conseil des 200. Il y a donc là une vision d'église-État. Le lien est étroit entre l'église et l'État. Et ces dispositions sont le résultat finalement de compromis afin de tenir compte de la conjoncture. Le consistoire se réunit tous les jeudis. Et le consistoire est au centre du système disciplinaire. Les anciens y exercent leur ministère de manière collégiale. Ils sont chargés des affaires externes. Entendez la discipline, la police, les questions de morale, les mariages, etc. Et le consistoire examinait celui qui se conduisait mal, qui n'allait pas au culte, qui se soulevait contre la doctrine. Si vous étiez, je le vois, du temps de Calvin, on s'attendait à ce que le matin vous soyez au culte. Priez, et au culte, on s'attend à ce que vous ne dormiez pas. Ah, il y avait là les anciens qui circulaient, et si vous étiez assoupis, on vous donnait un coup de calme. Et remarquez, ceci se passait dans les monastères du Moyen-Âge, hein, pendant les offices. Ah, mais à Genève, c'était comme ça. Alors, la nomination des anciens. La nomination des anciens. Oui, j'essaie de vous donner un exposé ecclésiologique, là, le plus complet possible. La nomination des anciens. Il nous faut distinguer, d'abord, dans les communautés en formation, hein, que nous avons appelées comment ? Oui, les églises plantées. Dans les communautés en formation, dans les églises plantées, les anciens sont élus par la voix commune du peuple et du pasteur.
Quand vous parlez là de peuple, c'est le peuple de l'église ou Genève était élu l'église, enfin je veux dire. Parce que quand vous dites que les gens, que les anciens sont tirés des organisations politiques, mais ce sont des gens quand même qui participaient à la vie ecclésiale.
Ah, oui, mais tout le monde est participe. Hein.
Ah bon?
Vous étiez genevois, vous participiez à la vie ecclésiale. Ah. Mais c'est tout à fait autre temps, autre mœurs. Vous savez, l'athéisme est rare. À cette époque. Très rare. Vous êtes en chrétienté. Vous êtes dans ce système tout à fait englobant. Vous êtes obligé de m'apporter au plus que. Et sinon, vous demandez compte, etc. Et vous êtes un jeune roi qui a. Les bourgeois de la ville de Genève se sont engagés à réformer leur mission à la parole de Dieu. Vous êtes pris dans cette. Alors, dans les communautés en formation, dans les églises plantées, les anciens sont élus par la voix commune du peuple et du pasteur. Là où l'église est dressée, entendez toujours organisée, le consistoire avec les pasteurs choisissent les anciens. Vous notez que la participation de ce qu'on appellerait entre guillemets les laïcs, ou les, disons, le peuple est une participation extrêmement indirecte hein, au XVIe siècle. C'est pas le peuple Le peuple n'élit pas ses anciens. C'est le consistoire, c'est-à-dire les autres anciens et les pasteurs.
Vous avez dit, le consistoire, avec les anciens, choisissent les pasteurs. Le consistoire et les pasteurs choisissent les anciens.
Ah bon, c'est le consistoire avec les pasteurs choisissent les anciens. J'ai dit pasteur, choisissent les plus anciens.
Et donc ce sont le consistoire, ce sont les anciens de l'église. Oui, alors qu'elle n'est que plantée. Parce que le consistoire, c'est les anciens.
Mais le consistoire, ce sont les anciens.
C'est ça. Donc en fait, c'est les anciens avec les pasteurs qui choisissent les autres anciens.
Voilà. Voilà. Oui. Tandis que comme il y a les églises non organisées, comme il n'y a pas de consistoire, à ce moment-là, c'est le pasteur et le peuple qui élisent par voie commune le pasteur. Alors, les anciens. Lorsque le terme d'ancien est également rare dans la prédication, lorsqu'il y apparaît, il s'y charge d'une signification nouvelle par rapport à celle de la surveillance dans le domaine des mœurs. Hein, lorsque le terme apparaît, le terme d'ancien, donc s'y charge d'une signification nouvelle, celle de gouverneur. De gouverneur ou de superintendant. En un seul mot, superintendant. Et comme le père Alexandre Galaxy l'a noté dans son ouvrage Calvin, théologien de l'Église et du ministère, ouvrage paru à Paris aux éditions du CERF, collection Unam Sanctam. Page 373. Vous savez que par un retournement extraordinaire des temps, quelquefois les meilleurs connaisseurs de Luther et de Calvin sont aujourd'hui ici catholiques. Il y a le père Olivier, etc., et d'autres qui sont des amis de Luther, et le père Alexandre Galaxy a écrit ici un livre majeur, Calvin, théologien de l'Église et du ministère. Eh bien, l'abbé Galaxy a montré que Calvin fait ainsi du ministère de l'Ancien à l'occasion un véritable épiscopat. Parce que, vous voyez, l'Ancien, c'est ce gouverneur. Ceci dit, il faudra attendre le milieu du XVIIe siècle, pour que le pasteur soit assisté d'un ancien lors de la distribution de la Sainte. Vous voyez, ce qui apparaît quasiment normal aujourd'hui, qu'un ancien accompagne le pasteur pour la distribution de la scène, n'existe pas au XVIe siècle. Il faudra attendre le milieu du XVIIe siècle. Alors, puisque vous êtes épuisé, j'arrête ici.
Vous